Chapitre 33. Cymatique. Ils changeaient, alors même que nous les combattions. Ils étaient tels des ombres, capables de se transformer comme danse la flamme. Ne les sous-estimez jamais à cause de ce que vous aurez vu en premier lieu. Se présente comme un fragment recueilli auprès de Talatine, un radieux de l'ordre de garde-pierre. La source, incarnation de Gouvlov, est généralement tenue pour fiable, bien que cet extrait provienne d'un fragment copié dans le poème du septième matin qui a été perdu. Parfois, quand Chalan entrait dans le palané proprement dit, la grandiose réserve de livres, manuscrits et parchemins situés au-delà des zones d'étude du voile, elle se laissait tellement distraire par sa beauté et son envergure qu'elle en oubliait tout le reste. Le palané avait la forme d'une pyramide inversée, taillée à même la pierre. Il possédait des galeries suspendues tout au long de son périmètre. Légèrement inclinées vers le bas, elles faisaient le tour des quatre murs pour former une majestueuse spirale carrée, un escalier géant tendu vers le centre de Rochard. Une série d'ascenseurs fournissait un moyen plus rapide de redescendre. Depuis la rambarde du niveau supérieur, Chalan n'y voyait que jusqu'à la moitié de sa hauteur. L'endroit semblait trop vaste, trop imposant, pour avoir été bâti par la main de l'homme. Comment les niveaux en gradins avaient-ils été alignés si parfaitement? S'était-on servi de spiricante pour créer ces espaces ouverts? Combien de gemmes aurait-il fallu utiliser? L'espace était faiblement éclairé. Il n'y avait pas d'éclairage général, rien que de petites lampes d'émeraude concentrées de manière à éclairer le sol des galeries. Les ardents du dévotaire de clairvoyance se déplaçaient parfois à travers les niveaux pour changer les sphères. Il devait y avoir ici des centaines et des centaines d'émeraudes. Elles composaient apparemment le trésor royal carbrantien. Quel meilleur endroit pour elles que le palané extrêmement sécurisé? Ici, elles pouvaient à la fois être protégées et servir à éclairer l'énorme librairie. Chalan poursuivit son chemin. Son serviteur Parche portait une lanterne à sphère qui contenait un trio de marques de saphir. La douce lumière bleue se reflétait sur les murs de pierre, dont des sections avaient été spiricantées en quartz dans un simple but décoratif. Les rombardes avaient été taillées dans le bois, puis transformées en marbre. Lorsqu'elle y passait les doigts, elle sentait le grain du bois original. Il possédait en même temps l'aspect lisse de la pierre. Une curiosité qui semblait conçue pour dérouter les sens. Son Parche portait un petit panier de livres rempli de dessins faits par de célèbres naturalistes. Jasna s'était mise à autoriser Chalan à consacrer une partie de son temps d'étude à des sujets de son propre choix. Rien qu'une heure par jour, mais cette heure était devenue incroyablement précieuse. Récemment, elle s'était plongée dans les voyages occidentaux de Mayalmer. Le monde était un endroit extraordinaire. Elle brûlait d'en apprendre davantage, d'observer chacune de ses créatures, d'en avoir des croquis dans ses carnets, d'organiser Rochard en le capturant en images. Les livres qu'elle lisait, bien qu'ils soient formidables, lui semblaient tous incomplets. Chacune des auteurs était douée pour les mots ou pour le dessin, mais rarement pour les deux. Et dans le cas de figure où elle l'était, alors elle possédait une piètre maîtrise des sciences. Il y avait tant de lacunes dans leur compréhension, des lacunes que Chalan pouvait combler. « Non, » se dit-elle fermement tout en marchant, « ce n'est pas ce que je suis venue faire ici. » Il lui devenait de plus en plus difficile de rester concentrée sur le vol, bien que Jasna, comme l'avait espéré Chalan, ait commencé à l'employer comme servante de bain, ce qui lui fournirait peut-être bientôt l'occasion qu'elle attendait. Et cependant, plus elle étudiait, plus elle avait soif de connaissances. Elle conduisit son Parche vers l'un des ascenseurs. Là, deux autres Parches entreprirent de la faire descendre. Chalan étudia le panier de livres. Elle pourrait consacrer le temps passé dans l'ascenseur à lire, peut-être à finir cette partie de « Voyages occidentaux ». Elle se détourna du panier. « Reste concentrée. » Cinq étages plus bas, elle sortit sur la passerelle plus petite qui reliait l'ascenseur aux rampes inclinées intégrées au mur. En atteignant le mur, elle tourna à droite et continua à descendre un peu plus loin. Le mur comportait plusieurs portes et, en trouvant celle qu'elle cherchait, elle pénétra dans une grande pièce de pierre remplie de hautes bibliothèques. « Attendez ici !» dit-elle à son parche tout en tirant sa pochette à dessein de son panier. Elle la fourra sous son bras, prit la lanterne et se précipita vers les rayons. On pouvait disparaître des heures dans le palanais sans jamais y croiser âme qui vive. Shallan voyait rarement qui que ce soit lorsqu'elle cherchait un livre obscur pour Jasnah. Il y avait des ardents et des serviteurs pour aller chercher les livres, bien entendu, mais Jasnah estimait important que Shallan s'entraîne à le faire par elle-même. Apparemment, le système de classement carbrandtien était désormais la norme pour une grande partie des bibliothèques et des archives de Rochard. Au fond de la pièce, elle trouva un petit bureau de bois de nucelier. Elle posa sa lanterne d'un côté, s'assit sur le tabouret et sortit sa pochette à dessin. La pièce était sombre et silencieuse, et la lumière de sa lanterne révélait l'extrémité des étagères sur sa droite et un mur de pierre lisse sur sa gauche. L'air sentait le vieux papier et la poussière. Pas l'humidité. Il ne faisait jamais humide dans le palanais. Peut-être cette sécheresse était-elle liée aux longues traînées de poudre blanche au bout de chaque pièce. Elle défit les attaches de cuir de sa pochette à dessin. À l'intérieur, les pages du dessus étaient vides, et les suivantes contenaient des dessins qu'elle avait faits de gens croisés dans le palanais. De nouveaux visages pour sa collection. Caché au milieu se trouvait un jeu de dessins plus important. Des croquis de Jasnah en train d'exécuter des spiricantations. La princesse utilisait rarement son spiricante. Peut-être hésitait-elle à s'en servir quand Shallan se trouvait dans les parages. Mais Shallan l'avait entrevue à quelques occasions, essentiellement lorsque Jasnah était distraite et oubliait apparemment qu'elle n'était pas seule. Shallan éleva une image dans les airs. Jasnah, assise dans l'alcôve, main sur le flanc, touchant un morceau de papier à lettres froissées tandis qu'une gemme brillait sur son spiricante. Shallan s'empara du dessin suivant. Il représentait la même scène quelques secondes plus tard. Le papier était devenu une boule de feu. Il n'avait pas brûlé. Non, il s'était transformé en feu. Des langues de flammes qui se recourbaient. Une bouffée de chaleur dans les airs. Que s'y trouvait-il que Jasnah ait souhaité cacher? Une autre image montrait Jasnah en train de spiricanter le vin de sa coupe en morceaux de cristal à utiliser comme presse-papier, tandis que le gobelet lui-même maintenait une autre pile en place. Lors de l'une des rares occasions où elle avait dîné et étudié dans un patio extérieur au conclave. Il y avait également celle où Jasnah brûlait des mots après être tombée à court d'encre. Quand Shallan l'avait vu brûler des mots sur la page, elle avait été stupéfaite par la précision du spiricante. Ce spiricante-ci semblait accordé à trois essences en particulier. Vapeur, étincelle et lucentia. Mais il devait être en mesure de créer n'importe laquelle des 10 essences, du zéphyr au talus. Cette dernière était la plus importante pour Shallan, car le talus englobait la pierre et la terre. Elle pouvait créer de nouveaux gisements de minerais exploitables par sa famille. Ça fonctionnerait. Les spiricantes étaient très rares à Jacquéved, et le marbre, le jade et l'opale de sa famille se vendraient à prime. Il ne pourrait pas créer de véritables gemmes avec un spiricante, on disait la chose impossible, mais il pourrait créer d'autres gisements de valeur quasiment égale. Une fois ces nouveaux gisements épuisés, il devrait se tourner vers des commerces moins lucratifs. Mais ce ne serait pas un problème. D'ici là, ils auraient remboursé leurs dettes et dédommagé ceux envers qui des promesses avaient été rompues. La maison d'Avar redeviendrait insignifiante, mais elle ne s'effondrerait pas. Shallan étudia de nouveau les images. La princesse Aleti semblait d'une étonnante désinvolture vis-à-vis de la spiricantation. Elle détenait l'un des artefacts les plus puissants de tout Rochard, et elle s'en servait pour créer des presse-papiers. Pourquoi d'autre utilisait-elle le spiricante quand Shallan ne la voyait pas? Jasnah semblait désormais s'en servir moins souvent qu'avant en sa présence. Shallan plongea la main dans la sage bourse à l'intérieur de sa manche et en tira le spiricante cassé de son père. Il avait été tranché à deux emplacements, sur l'une des chaînes et à travers la monture qui retenait l'une des pierres. Elle l'inspecta à la lumière, cherchant, comme elle l'avait déjà fait, des traces des dégâts subis. Le maillon de la chaîne avait été remplacé parfaitement, et la monture reforgée tout aussi habilement. Même en sachant précisément où s'étaient trouvées les coupures, elle ne parvenait pas à trouver le moindre défaut. Malheureusement, la réparation des dégâts externes ne l'avait pas rendue fonctionnelle pour autant. elle souleva le lourd assemblage de métal et de chaînes. Puis elle l'enfila, enroulant les chaînes autour de son pouce, de son auriculaire et de son majeur. L'appareil ne comportait pas de gemmes pour l'instant. Elle compara le spiricante cassé au dessin, l'inspectant de tous côtés. Oui, il semblait identique. Elle s'était inquiétée à ce sujet. Shallan sentit son cœur palpiter tandis qu'elle regardait le spiricante brisé. Voler Jasna lui avait semblé acceptable lorsque la princesse n'était qu'une silhouette lointaine et inconnue. Une hérétique, sans doute irascible et exigeante. Mais qu'en était-il de la véritable Jasna? Une érudite prudente, austère mais juste, possédant une étonnante mesure de sagesse et de perspicacité. Shallan pouvait-elle réellement la voler? Elle tenta de calmer les battements de son cœur. Même toute petite, elle était déjà ainsi. Elle se rappelait ses larmes lors des disputes opposant ses parents. Elle n'était pas à l'aise avec la confrontation. Mais elle allait le faire. Pour Nan Balat, Tetwi Kim et Asha Jushu. Ses frères dépendaient d'elle. Elle appuya les mains contre ses cuisses pour les empêcher de trembler, inspirant et expirant. Au bout de quelques minutes, ayant contrôlé ses nerfs, elle retira le spiricante endommagé et le replaça dans sa sage bourse. Elle rassembla ses papiers. Il serait peut-être important pour l'aider à découvrir comment se servir du spiricante. Comment allait-elle s'y prendre? Existait-il un moyen de demander à Jasna d'utiliser un spiricante sans éveiller ses soupçons? Une lumière vacillant à travers les bibliothèques proches la fit sursauter, et elle rangea sa pochette à dessin. Il s'avéra que ce n'était qu'une vieille ardente vêtue d'une robe qui s'avançait d'un pas traînant avec une lanterne, suivie d'un serviteur parche. Elle ne regarda pas dans la direction de Shallan lorsqu'elle tourna entre deux rangées d'étagères, avec la lumière de sa lanterne brillant à travers les espaces séparant les livres. Éclairée ainsi, d'une manière qui cachait sa silhouette, mais laissait la lumière filtrer entre les étagères, elle donnait l'impression que l'un des héros en personne marchait à travers les rayons. Le cœur battant de nouveau la chamade, Shallan porta sa sage main à sa poitrine. « Je fais une piètre voleuse », se dit-elle en grimaçant. Elle termina de rassembler ses affaires et se déplaça à travers les rayons, brandissant sa lanterne devant elle. La tête de chaque rangée était ornée de symboles sculptés indiquant la date à laquelle les livres étaient entrés dans le palanais. C'était ainsi qu'ils étaient organisés. Il y avait au niveau supérieur d'énormes cabinets remplis d'index. Jasna avait envoyé Shallan chercher, puis lire, un exemplaire de Dialogue, célèbre ouvrage historique sur la théorie politique. Cependant, c'était aussi la pièce qui renfermait Souvenance des ombres, le livre que lisait Jasna quand le roi lui avait rendu visite. Shallan l'avait plus tard cherché dans l'index. Il avait dû être remis à sa place depuis. Soudain curieuse, Shallan compta les rangées. Elle s'avança et compta les étagères en remontant vers l'intérieur. Près du milieu et en bas, elle trouva un mince volume rouge à la couverture en cuir de porc. Souvenance des ombres. Shallan posa sa lanterne par terre et dégagea le livre, puis le feuilleta avec un sentiment de sournoiserie. Ce qu'elle découvrit la dérouta. Elle n'avait pas songé qu'il puisse s'agir d'un livre d'histoire pour enfants. Il n'y avait aucun commentaire d'infratexte, rien qu'une série de récits. Shallan s'assit par terre et lut le premier. C'était l'histoire d'un enfant qui s'éloignait de chez lui en pleine nuit et se retrouvait pourchassé par les néantifères jusqu'à ce qu'il se cache dans une grotte près d'un lac. Il taillait un morceau de bois pour lui donner une forme grossièrement humaine et l'envoyait flotter sur le lac, leurrant ainsi les créatures qui l'attaquaient et le dévoraient à sa place. Shallan n'avait pas beaucoup de temps. Jasna se méfierait si elle restait ici trop longtemps. Mais elle parcourut le reste des histoires. Toutes étaient du même style, des histoires de fantômes sur les esprits ou les néantifères. Le seul commentaire figurait au dos, expliquant que l'auteur éprouvait une curiosité pour les récits populaires racontés par les sombres iris. Elle avait passé des années à les recueillir et à les consigner. Souvenance des ombres, songea Shallan, aurait mieux fait d'être oubliée. C'était donc là ce qu'avait lu Jasna. Shallan s'était attendu à ce que « Souvenance des ombres » soit une sorte de discussion philosophique profonde sur un meurtre historique caché. Jasna était vériste italienne. Elle dégageait la vérité des événements du passé. Quel genre de vérité pouvait-elle trouver dans des histoires racontées pour effrayer les enfants sombres iris désobéissants? Shallan remit l'ouvrage en place et s'empressa de repartir. Peu après, Shalan regagna l'alcôve pour découvrir qu'elle s'était hâtée en vain. Jasna n'était pas là. Kabzal si, en revanche. Le jeune ardent était assis au bureau allongé, parcourant l'un des livres de Jasna sur l'art. Shalan le remarqua avant qu'il ne la voie, et elle se surprit à sourire malgré ses ennuis. Elle croisa les bras et adopta une expression dubitative. « Encore ?» demanda-t-elle. Kabzal se releva d'un bond et referma brusquement le livre. « Shalan !» dit-il, son crâne chauve reflétant la lumière bleue de sa lanterne de parche. « Je suis venue chercher... Jasna !» l'interrompit-elle. « Comme toujours. Et pourtant, elle n'est jamais ici quand vous vous présentez. » « Une regrettable coïncidence !» dit-il en portant la main à son front. « Je suis affreusement peu douée pour choisir le bon moment, n'est-ce pas ?»«
Et c'est une corbeille de pain que je vois à vos pieds ?»«
Un cadeau pour la clarissime Jasna, » expliqua-t-il, « de la part du dévotaire de clairvoyance. »«
Je doute qu'une corbeille de pain suffise à la convaincre de renoncer à son hérésie, » dit Shalan. « Peut-être que si vous aviez ajouté de la confiture... »
L'ardent sourit, s'empara de la corbeille et en tira un petit pot de confiture rouge de cimoise.
« Bien sûr, je vous ai dit que Jasna n'aimait pas la confiture, » dit Shalan. « Mais vous en apportez malgré tout en sachant que ça fait partie de mes aliments préférés. Et vous l'avez fait, oh, une dizaine de fois ces derniers mois ?»«
Je deviens quelque peu transparent, n'est-ce pas ?»«
Un tantinet, » répondit-elle en souriant. « C'est à cause de mon âme, n'est-ce pas ? Vous vous inquiétez pour moi parce que je suis l'apprentie d'une hérétique. »«
Eh bien, oui, je le crains. »
« Je pourrais m'en offusquer, » répondit Shalan. « Mais vous apportez de la confiture, après tout. »
Elle sourit, puis fit signe à son parche de déposer ses livres, puis d'attendre près de la porte. Était-il exact que des parches se battaient dans les plaines brisées ? Voilà qui semblait difficile à croire. Elle n'avait jamais vu de parche, ne serait-ce qu'élever la voix. Il ne semblait pas assez intelligent pour désobéir. Bien entendu, certains récits qu'elle avait entendus, y compris ce que Jasna lui avait fait lire lorsqu'elle effectuait des recherches sur le meurtre de Gavilar, indiquait que les Parchendi ne ressemblaient pas aux autres Parches. Ils étaient plus grands, portaient d'étranges armures qui poussaient de leur peau elles-mêmes, et parlaient bien plus fréquemment. Peut-être n'étaient-ils pas des Parches, mais des cousins éloignés, une espèce entièrement différente. Elle s'assit à son bureau lorsque Kabzal sortit le pain, tandis que son Parche patientait à l'entrée. Un parche faisait un piètre chaperon, mais Kabzal était un ardent. Ce qui signifiait techniquement qu'elle n'en avait pas besoin. Le pain avait été acheté dans une boulangerie thaïlaine, et il était par conséquent complet et aérien. Et puisque Kabzal était un ardent, le fait que la confiture soit un aliment féminin n'avait aucune importance. Ils pouvaient la déguster ensemble. Elle l'étudia tandis qu'il coupait le pain. Les ardents employés par son père avaient tous été des hommes ou des femmes bourrus, approchant de la fin de leur vie, au regard sévère, sans patience avec les enfants. Elle n'avait même jamais imaginé que les dévotaires puissent attirer de jeunes hommes comme Kabzal. Lors de ces dernières semaines, elle s'était surprise à penser à lui d'une manière qu'elle aurait préféré éviter.
« Avez-vous réfléchi, commenta-t-il, au genre de personne que vous déclarez être en préférant la confiture de cimoise ?»
J'ignorais que mon goût en matière de confiture pouvait être aussi lourd de sens.
« Il existe des gens qui l'ont étudié, » répondit Kabzal, en étalant l'épaisse confiture rouge avant de lui tendre la tranche. « On tombe sur des livres très étranges en travaillant dans le palanais. Il n'est pas difficile d'en conclure que tout a dû être étudié à un moment ou un autre. »«
Dit Shalan. « Et la confiture de cimoise ?»«
Selon palais et personnalité, » Et avant que vous ne protestiez « oui, c'est le titre d'un vrai livre », le goût pour les cimoises témoigne d'une personnalité impulsive et spontanée, ainsi qu'une préférence pour... »
Il s'interrompit lorsqu'une boulette de papier rebondit sur son front. Il cligna des yeux.
« Désolé, » dit Shalan, « c'est arrivé tout seul. Ça doit être à cause de toute l'impulsivité et de la spontanéité que j'ai en moi. »
Il sourit.
« Vous n'êtes pas d'accord avec ces conclusions ?»
« Je n'en sais rien, » répondit-elle en haussant les épaules. « Des gens m'ont déjà dit qu'ils étaient capables de déterminer ma personnalité en fonction de mon jour de naissance ou de la position de la cicatrice de Talne lors de mon 7e anniversaire. ou d'extrapolation numérologique sur le dixième paradigme glyphique. Mais je crois que nous sommes plus complexes que ça. Les gens sont plus complexes que les extrapolations numérologiques du dixième paradigme glyphique ? Demanda Kabzal en étalant de la confiture sur un morceau de pain pour lui-même. Pas étonnant que j'aie tant de mal à comprendre les femmes.
Très drôle. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes plus complexes que de simples assemblages tout faits de traits de personnalité. Est-ce que je suis spontanée ? Parfois. C'est ainsi qu'on pourrait décrire la façon dont j'ai poursuivi Jasna jusqu'ici pour devenir sa pupille. Mais avant ça, j'ai passé 17 ans à être aussi peu spontanée qu'on puisse l'être. Dans de nombreuses situations, si l'on m'y encourage, ma langue sait se montrer tout à fait spontanée, mais mes actes le sont rarement. Nous sommes tous spontanés par moments, et nous sommes tous conservateurs à d'autres.
Dans ce cas, vous êtes en train de me dire que le livre a raison. Il dit que vous êtes spontané. Vous l'êtes de temps en temps. Par conséquent, c'est correct.
Selon cet argument, ça s'applique à tout le monde.
Correct à 100%.
Eh bien, pas à 100%, répondit Shalan en prenant une nouvelle bouchée de ce pain doux et moelleux. Comme je vous le disais, Jasna déteste toutes les sortes de confitures.
Ah oui, c'est vrai, répondit Kabzal. Elle est même hérétique en matière de confiture. Son âme court un danger plus grand que je ne le pensais.
Il sourit et mordit dans son pain. En effet, dit Shalan. Alors qu'est-ce que votre livre dit d'autre sur moi et sur la moitié de la population mondiale en fonction de mon goût pour la nourriture beaucoup trop sucrée?
Eh bien, le goût des Siamoises est également censé indiquer l'amour du grand air.
Ah, le grand air, dit Shalan. J'ai visité cet endroit mythique un jour. C'était il y a si longtemps que j'ai presque tout oublié. Dites-moi, est-ce que le soleil brille toujours, ou n'est-ce qu'un souvenir nostalgique de ma part?
Vos recherches ne sont tout de même pas si terribles que ça.
Jasna possède un amour immodéré pour la poussière, répondit Shalan. Je crois qu'elle en a besoin pour s'épanouir, et qu'elle se nourrit de ses particules comme un chul qui mâchonne des boutons de roche.
Et vous, Shalan? De quoi avez-vous besoin pour vous épanouir?
De charbon.
Il sembla étonné tout d'abord, mais regarda ensuite sa pochette à dessin. Ah oui, j'étais surpris de voir à quelle vitesse votre nom et vos dessins s'étaient répandus à travers le conclave.
Shalan termina de manger son pain, puis s'essuya les mains sur un chiffon humide que Kabzal avait apporté. À vous entendre, on croirait que je suis une maladie. Elle passa un doigt à travers ses cheveux roux et fit la grimace. J'imagine que je dois avoir la couleur d'une urticaire, non?
Ne dites pas de bêtises, répondit-il d'une voix sévère. Ne dites pas des choses pareilles, Clarissime. C'est irrespectueux.
Pour moi?
Non, pour le Tout-Puissant qui vous a créé.
Il a aussi créé les crémillons, sans parler des urticaires et des maladies. Donc c'est plutôt un honneur d'y être comparé.
Cette logique m'échappe, Clarissime. Dans la mesure où il a créé toute chose, les comparaisons n'ont aucun sens.
Comme les affirmations de votre livre sur les palais, hein?
Bien vu.
On peut être des choses bien pires qu'une maladie, répondit-elle songeuse. Lorsqu'on en a une, ça nous rappelle qu'on est vivant. Ça nous pousse à nous battre pour ce qu'on a. Quand la maladie a suivi son cours, la vie normale et en bonne santé semble merveilleuse en comparaison.
Et vous ne préféreriez pas être un sentiment d'euphorie? Apporter des sentiments agréables et de la joie à ce que vous contaminez?
L'euphorie se dissipe. Elle est généralement brève, si bien que nous passons plus de temps à la désirer qu'à en profiter.
Elle soupira.
Regardez ce que nous avons fait. Maintenant, je suis déprimée. Au moins, revenir à mes études semblera exaltant en comparaison.
Il regarda les livres d'un air pensif. J'avais plutôt l'impression que vous preniez plaisir à étudier.
C'était le cas. Et puis Jasna Colin a débarqué dans ma vie et m'a prouvé que même quelque chose d'agréable pouvait devenir ennuyeux.
Je vois. C'est donc une maîtresse sévère?
Non, en réalité, dit Shalan. C'est seulement que j'adore les hyperboles.
Pas moi, dit-il. C'est une vraie vacherie à épeler.
Kabzal?
Désolé, dit-il avant de lever les yeux. Désolé.
Je suis sûre que le plafond vous pardonne. Pour attirer l'attention du Tout-Puissant, vous devriez peut-être brûler une prière.
Je lui en dois quelques-unes, de toute façon, dit Kabzal.
Donc, vous disiez? Eh bien,
que la clarissime Jasna n'est pas une maîtresse sévère. En réalité, elle est tout ce qu'on dit d'elle. Brillante, belle, mystérieuse. J'ai de la chance d'être sa pupille.
Kabzal hocha la tête.
On dit d'elle que c'est une femme remarquable, à un détail près.
Vous voulez parler de son hérésie ?
Il hocha la tête.
Ce n'est pas aussi dur pour moi que vous ne le pensez, dit-elle. Elle exprime rarement ses croyances, à moins qu'on ne la provoque.
Dans ce cas, elle en a honte.
J'en doute. Elle est seulement attentionnée.
Il la mesura du regard.
Vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi, dit Shallan. Jasna ne cherche pas à me convaincre d'abandonner les dévotaires.
Kabzal se pencha vers elle, l'air plus grave.
Il était plus âgé qu'elle. Un homme d'une vingtaine d'années, confiant, sûr de lui et sincère. Il était pratiquement le seul homme d'un âge proche du sien auquel elle ait jamais parlé en dehors de la surveillance prudente de son père. Mais c'était également un ardent. Il ne pouvait donc rien se produire. N'est-ce pas ?
Shallan, dit doucement Kabzal,
vous ne comprenez pas pourquoi nous pourrions, pourquoi je pourrais être inquiet ? La clarissime Jasna est une femme très puissante et intrigante. Nous pourrions nous attendre à ce que ses idées soient contagieuses.
Contagieuse ?
Je croyais que c'était moi, la maladie.
Je n'ai jamais dit ça.
Non, mais j'ai fait comme si vous l'aviez dit.
Ce qui revient quasiment au même.
Il fronça les sourcils.
Clarissime Shallan, les ardents s'inquiètent vraiment pour vous. L'âme des enfants du Tout-Puissant est sous notre responsabilité. Jasna est connue pour avoir corrompu ceux avec qui elle entre en contact.
Vraiment ?
Demanda Shallan avec un intérêt sincère.
D'autres pupilles ?
Je ne suis pas en position de la prendre.
Alors changez de position.
Je suis ferme sur ce point, Clarissime. Je refuse d'en parler.
Dans ce cas, écrivez-le.
Clarissime, dit-il d'une voix teintée d'une nuance impatiente.
Bon, très bien,
répondit-elle en soupirant. En tout cas, je peux vous assurer que mon âme se porte très bien et qu'elle est entièrement non contaminée.
Il se laissa aller en arrière, puis coupa un nouveau morceau de pain. Elle se surprit de nouveau à l'étudier, mais sa propre stupidité juvénile l'agaça. Elle rejoindrait bientôt sa famille, et il ne lui rendrait visite que pour des raisons relatives à sa vocation. Mais elle appréciait réellement sa compagnie. Il était le seul ici, à Carbrandt, à qui elle avait le sentiment de pouvoir vraiment parler. Et il était séduisant. Ses vêtements simples et son crâne rasé ne faisaient que souligner ses traits marqués. Comme beaucoup de jeunes ardents, il gardait la barbe courte et soigneusement taillée. Il parlait d'une voix raffinée et il était très cultivé.
« Eh bien, si vous êtes aussi sûr de votre âme, dit-il en se retournant vers elle, peut-être que je pourrais dans ce cas vous intéresser à notre dévotaire. »«
J'en ai déjà un, le dévotaire de pureté. » »«
Mais le dévotaire de pureté n'est pas le bon endroit pour une érudite. La gloire qu'il préconise n'a rien à voir avec vos études ni votre art. »
Il n'est pas nécessaire que notre dévotaire se concentre directement sur notre vocation.
Mais c'est agréable quand les deux coïncident.
Shallan étouffa une grimace. Le dévotaire de pureté se concentrait, comme on pouvait l'imaginer, sur le fait d'apprendre à imiter l'honnêteté et l'intégrité du Tout-Puissant. Les ardents de la maison des dévotaires n'avaient pas su que faire de sa fascination pour l'art. Ils avaient toujours voulu qu'elle fasse des croquis de choses qu'ils trouvaient pures, des statues des héros, des représentations de l'œil double. Bien sûr, c'était son père qui lui avait choisi ce dévotaire.
« Je me demande simplement si vous avez choisi en connaissance de cause, » répondit Kabzal. « Après tout, il est permis de changer de dévotaire. »
« Oui, mais le recrutement n'est-il pas mal vu ? Le fait que les ardents se disputent des membres ?»«
C'est effectivement mal vu. Une déplorable habitude. »«
Mais vous le faites malgré tout ?»«
Je jure aussi, de temps en temps. »
Je ne m'en étais pas rendu compte. Vous êtes un ardent très curieux, Kabzal.
Vous serez surprise. Nous sommes une bande bien moins empoisonnante que nous n'en avons l'air. Enfin, à part frère absente. Il passe tellement de temps à nous lancer des regards noirs.
Il hésita.
En réalité, maintenant que j'y pense, je ne crois pas l'avoir déjà vu bouger. Je me demande s'il ne s'est pas empoisonné tout seul.
Nous nous laissons distraire. N'étiez-vous pas en train d'essayer de me recruter pour votre dévotaire ?
En effet. Et ce n'est pas aussi rare que vous le pensez. Tous les dévotaires s'y lancent. Nous passons beaucoup de temps à nous jeter mutuellement des regards noirs à cause de notre profond manque d'éthique.
Il se pencha de nouveau,
de plus en plus sérieux. Mon dévotaire comporte relativement peu de membres, étant donné que nous ne disposons pas de la même exposition que certains autres. Donc, chaque fois que quelqu'un qui cherche la connaissance vient au Palané, nous nous chargeons de l'informer, de le recruter. Nous lui permettons de voir ce qu'il rate. Il prit une bouchée de pain à la confiture. Au dévotaire de pureté, vous a-t-on enseigné la nature du Tout-Puissant, le prisme divin dont les 10 facettes représentent les héros. Ils ont effleuré le sujet, répondit-elle. La plupart du temps, nous parlions d'atteindre mes objectifs de... Eh bien, de pureté. C'était assez ennuyeux, je dois bien l'admettre, comme il n'y avait pas beaucoup d'occasions d'impureté de ma part. Kabzal secoua la tête. Le Tout-Puissant accorde des talents à tout le monde, et quand nous choisissons une vocation qui en tire parti, nous le vénérons de la manière la plus fondamentale qui soit. Un dévotaire et ses ardents devraient contribuer à nourrir ses talents, vous encourager à poser et à accomplir des objectifs d'excellence. Il désigna les livres empilés sur le bureau. Voilà ce à quoi devrait vous aider votre dévotaire, Jalan. L'histoire, la logique, la science, l'art. C'est important de se montrer honnête et bon. Mais nous devrions déployer plus d'efforts pour encourager les talents naturels des gens, au lieu de les forcer à s'adapter aux gloires et aux vocations qui nous semblent les plus importants. C'est un argument raisonnable, je crois. Kabzal acquiesça, l'air songeur. Qu'y a-t-il d'étonnant à ce qu'une femme comme Jasna Colline s'en soit détournée? De nombreux dévotaires encouragent les femmes à laisser aux ardents les études théologiques les plus difficiles. Si seulement Jasna avait pu voir la beauté véritable de notre doctrine. Il sourit et piocha un livre épais dans son panier à pain. J'avais vraiment espéré, au départ, être en mesure de lui montrer ce que je voulais dire. Je ne crois pas qu'elle y réagirait très bien. Peut-être, répondit-il distraitement en soulevant l'ouvrage. Mais imaginez un peu, être celui qui réussisse enfin à la convaincre. Frère Kabzal, on dirait presque que vous cherchez la distinction. Il rougit, et elle comprit avoir dit quelque chose qui l'avait sincèrement embarrassé. Elle tressaillit et maudit sa propre langue. « Oui, dit-il. En effet, je recherche la distinction. Je ne devrais pas souhaiter si ardemment être celui qui la convertisse. Mais je le souhaite. Si seulement elle voulait bien écouter mes preuves. Vos preuves? J'ai des preuves concrètes de l'existence du Tout-Puissant. J'aimerais les voir. » Puis elle leva le doigt pour l'interrompre. « Pas parce que je doute de son existence, Kabzal, par simple curiosité. » Il sourit. « Je vous expliquerai tout ça avec plaisir. Mais d'abord, voulez-vous une nouvelle tranche de pain ?»« Je devrais refuser, » répondit-elle, « et éviter les excès, comme mes tutrices me l'ont appris. Mais je vais plutôt accepter. »«
À cause de la confiture ?»«
Bien sûr, » dit-elle en prenant le pain. « Comment votre livre d'oracles alimentaires me décrivait-il ? » Comme impulsive et spontanée? Je suis capable de l'être, s'il y a de la confiture en jeu. Il lui entartina un morceau de pain, puis s'essuya les doigts sur le chiffon et ouvrit son livre, qu'il feuilleta jusqu'à la page illustrée. Chalan se glissa plus près pour mieux y voir. L'image ne représentait pas une personne, elle montrait une sorte de motif. Une forme triangulaire, avec 3 ailes écartées et un milieu en pointe. Est-ce que vous le reconnaissez? Demanda Kabzal. Le dessin lui semblait familier. « J'ai l'impression que je devrais. »«
C'est Kolinar, » dit-il.
« La capitale Aleti, dessinée comme elle apparaîtrait vue d'en haut. »« Vous voyez ces pics ici? Et là ces arêtes? La ville a été bâtie autour de la formation rocheuse préexistante. » Il tourna la page. « Voici Védenar, capitale de Jakeved. » Celle-ci était un schéma hexagonal. « Akina, » un motif circulaire. Taïlénaville, une étoile à 4 pointes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la preuve que le Tout-Puissant se trouve dans toute chose. Vous le constatez ici, dans ces villes. Voyez-vous comme elles sont symétriques? Ces villes ont été construites par des hommes, Kabzal. Ils ont voulu la symétrie parce qu'elle est sacrée. Oui, mais dans chacun de ces cas, ils ont construit autour de formations rocheuses existantes. Ça ne signifie rien, dit Chalan. Je suis croyante, mais je ne sais pas si l'on peut considérer ça comme une preuve. Le vent et l'eau peuvent créer la symétrie. On la voit constamment dans la nature.
les hommes ont choisi des zones qui étaient grossièrement symétriques, puis ils ont conçu leur ville de manière à compenser les défauts.
Il reporta de nouveau son attention sur son panier pour y fouiller. Il en tira, contre toute attente, une plaque métallique. Alors qu'elle ouvrait la bouche pour formuler une question, il leva de nouveau le doigt et posa la plaque sur un petit support de bois qu'il élevait de quelques centimètres au-dessus de la table. Kabzal saupoudra la surface métallique d'un sable blanc et poudreux pour l'en recouvrir. Puis il sortit un archet, pareil à ceux que l'on passait sur des cordes pour jouer de la musique.
« Vous êtes venu préparé à faire cette démonstration, je vois, »
commenta Shallan.
« Vous vouliez vraiment présenter vos arguments à Jasna. »
Il sourit, puis fit glisser l'archet contre le bord de la plaque métallique, ce qui la fit vibrer. Le sable se mit à rebondir, comme de minuscules insectes tombés sur une surface chaude. «
Voilà, » dit-il, « ce qu'on appelle la cymatique, l'étude des schémas que produisent les bruits lorsqu'ils interagissent avec un médium physique. »
Lorsqu'il fit de nouveau glisser l'archet, la plaque émit un bruit, presque une note pure. Ce fut suffisant pour attirer un unique spren de musique qui tournoya un moment devant lui, dans les airs, puis disparut. Kabzal termina, puis désigna la plaque d'un grand geste.
« Et donc ?» demanda Shallan.
« Kolinar, » dit-il en élevant son livre pour qu'elle puisse comparer. Shallan inclina la tête. Le motif dessiné dans le sable ressemblait exactement à Kolinar. Il laissa de nouveau tomber du sable sur la plaque avant d'y faire de nouveau glisser l'archet à un autre emplacement, et le sable se redisposa.
« Védénar, » dit-il.
Elle compara de nouveau. C'était une copie conforme. « Taïlénavil, » déclara-t-il en répétant le processus à un autre emplacement. Il choisit soigneusement un autre point sur le bord de la plaque et y appliqua un dernier coup d'archet.
« Akina, Shallan, la preuve de l'existence du Tout-Puissant réside dans les villes mêmes que nous habitons. Regardez cette symétrie parfaite. »
Elle devait admettre qu'il y avait quelque chose de fascinant dans ces motifs.
« Cette corrélation est peut-être fausse. Il pourrait s'agir de deux éléments ayant la même cause. »
« Oui, le Tout-Puissant, » dit-il en s'asseyant. « Notre langage même est symétrique. Regardez ces glyphes. Chacun peut être parfaitement plié en deux. Et l'alphabet aussi. Pliez n'importe quelle ligne de texte sur elle-même et vous trouverez une symétrie. » Vous devez bien connaître l'histoire selon laquelle les glyphes, comme les lettres, sont venus des chanteurs de l'aube.
Oui.
Même nos noms. Le vôtre est presque parfait. Shallan. Une seule lettre asymétrique. Un nom idéal pour une femme pâle iris. Pas trop sacré, mais il n'en est pas si loin. Les noms originels des six royaumes d'argent. Alethela. Valav. Shinkaknish.
Parfait. Symétrique. Il se pencha pour prendre sa main.
C'est ici, autour de nous. Ne l'oubliez pas, Shallan, quoi qu'elle puisse affirmer.
Je ne l'oublierai pas, répondit-elle, soudain consciente de la façon dont il avait orienté la conversation. Il lui avait dit qu'il la croyait, mais il avait malgré tout passé ses preuves en revue.
C'était touchant et agaçant tout à la fois. Elle n'appréciait pas la condescendance. D'un autre côté, pouvait-on réellement reprocher à un ardent de prêcher ? Kabzal releva soudain les yeux et relâcha sa main.
J'entendais pas.
Il se leva et Shallan se retourna pour voir Jasna entrer dans l'alcôve, suivie par un parche qui portait un panier de livres. Jasna ne trahit aucune surprise en découvrant la présence de l'ardent.
Je suis désolée, clarissime Jasna, dit Shallan en se levant.
Vous n'êtes pas captive, mon enfant, l'interrompit brusquement Jasna. Vous êtes autorisé à recevoir des visites. Prenez simplement garde de vérifier l'absence de traces de dents sur votre peau. Ces gens-là ont l'habitude d'entraîner leur proie en mer avec eux.
Kabzal rougit. Il fit mine de rassembler ses affaires. Jasna fit signe au parge de placer ses livres sur la table.
Est-ce que cette plaque peut reproduire le schéma cymatique correspondant à Ouritirou, prêtre? Ou n'avez-vous de schéma que pour les quatre villes standards?
Kabzal leva les yeux vers elle, visiblement stupéfait de découvrir qu'elle savait exactement à quoi servait la plaque. Il ramassa son livre.
« Ouritirou n'est qu'une fable. » « Curieux, on pourrait s'attendre à ce que les gens comme vous aient l'habitude de croire à des fables. »
Kabzal s'empourpra encore davantage.
Il termina de rassembler ses affaires, puis salua Shallan d'un brusque signe de tête et quitta précipitamment la pièce.
« Si je puis me permettre, clarissime, » dit Shallan, « c'était exceptionnellement grossier de votre part. »«
Je suis sujette à ce genre d'accès d'impolitesse, » répondit Jasna. « Je suis sûre qu'il a entendu parler de mon caractère. Je voulais simplement m'assurer qu'il est ce qu'il attendait. » »«
Vous n'auriez pas agi ainsi vis-à-vis des autres ardents du Palanais. »
Les autres ardents n'ont pas tenté de retourner ma pupille contre moi.
Ils n'étaient pas... »
Shallan laissa sa phrase en suspens.
Ils s'inquiétaient simplement pour mon âme.
Vous a-t-il déjà demandé d'essayer de voler mon spiricante ?
Shallan en resta stupéfaite. Sa main se porta à la bourse au niveau de sa taille. Jasna était-elle au courant ?
Non, se dit Shallan.
Non, écoute sa question.
Non ? « Surveillez-le, » dit Jasna en ouvrant un livre. « Il finira par le faire. J'ai une certaine expérience avec ces gens-là. » Elle se tourna vers Shallan et son expression s'adoucit. « Il ne s'intéresse pas à vous, pas comme vous pourriez le penser. En particulier, ce n'est pas de votre âme qu'il s'agit, c'est de moi. »
« C'est quelque peu arrogant de votre part, » répondit Shallan. « Vous ne trouvez pas ?»«
Seulement si je me trompe, mon enfant. » répondit Jasna en reportant son attention sur son livre. « Et je le fais rarement. »